France Culture.
Et on commence avec le retour de terrain. Bonjour Manon Chaplin.
Bonjour.
Vous êtes correspondante pour Radio France et RFI en Syrie. Et c'est dans le sud du pays, dans les environs de Soueïda, dans la province et aussi dans la province de Deraa, que vous vous êtes rendue pour vos derniers reportages. Vous y avez recueilli les témoignages des habitants encore traumatisés par les violents affrontements survenus en juillet entre factions bédouines, druzes et forces du gouvernement. On estime que 1400 personnes y ont laissé la vie, tandis que 170 000 autres ont été forcés de quitter leurs terres et leur maison. Si un cessez-le-feu a permis un relatif retour au calme, les tensions restent vives, tandis que l'aide humanitaire peine à entrer dans la ville de Soueïda, qui est considérée comme le fief de la communauté druze de Syrie. On parle même, Manon Chaplin, de siège. Pourquoi Soueïda est-elle toujours coupée du monde deux mois après le cessez-feu? Qui en interdit l'accès?
Oui, alors il faut imaginer aujourd'hui, c'est vrai que la ville de Soueïda est verrouillée. Il y a deux côtés à ça. On peut imaginer sur l'extérieur de la ville, ce sont les forces de la sécurité générale du nouveau gouvernement qui sont déployées, qui ont monté des checkpoints. Et plus en intérieur de la ville, ce sont donc les factions druzes qui sont là et qui gardent l'entrée de la ville. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez dit, la ville est verrouillée. C'est notamment très compliqué en tant que journaliste de rentrer, même impossible aujourd'hui. Il y a eu à peu près trois jours où c'était possible de rentrer. J'ai moi-même essayé d'y aller avec des autorisations, etc. Mais arriver devant le checkpoint des autorités, on m'a dit que c'était impossible de rentrer pour des raisons de sécurité. Donc ça, c'est pour les journalistes. Par ailleurs, comme vous le disiez, il y a aussi des convois humanitaires qui rentrent, mais qui rentrent au compte-gouttes.
C'est assez humanitaire, compliqué. Humanitaire,
tout à fait. Pour apporter de l'aide, parce que c'est vrai que la province, la ville aujourd'hui, manque de beaucoup de choses, que ce soit nourriture, pétrole, ce qui fait qu'il y a de nombreux manques qui sont remontés par la population. Et par ailleurs, la mobilité de la population aussi. C'est-à-dire que c'est possible de sortir. C'est très compliqué de re-rentrer. Quand j'ai essayé d'y aller, que j'étais donc sur ce fameux checkpoint, j'ai par exemple rencontré une femme, une déplacée bédouine, qui était sortie suite aux violences, qui voulait re-rentrer pour récupérer ses moutons, parce que la majorité des bédouins sont des bergers. Elle ne pouvait pas. Donc il y a eu une sorte d'échange qui a été organisé dans cette une sorte de no man's land, en fait, qui entre donc les forces des autorités de Damas et les forces des factions druzes. Et donc il y avait un échange qui avait été fait. Elle a pu récupérer ses moutons à la fin, mais elle n'avait pas réussi à rentrer. Ça, c'était début août.
Et concernant l'aide humanitaire qui entre, vous le disiez, au compte-gouttes, comment expliquer, qui est responsable de ce blocage et sur cette double ceinture de sécurité que vous venez de nous décrire? Est-ce que ce sont les forces gouvernementales qui empêchent les camions de passer? Est-ce que ce sont les druzes qui tiennent ensuite la ville? Voilà, comment encore une fois expliquer ce blocage? Parce que les échos qu'on a de l'intérieur de Soueïda sont alarmants. Les gens manquent de nourriture, de matériel médical, de carburant, d'informations aussi.
Alors, on va dire que c'est un peu des deux côtés, c'est-à-dire qu'il y a une méfiance de la part des autorités sur qui rentrent, mais aussi des factions druzes. Par exemple, suite à l'épisode de violence de juillet, il y a un convoi humanitaire qui a essayé de rentrer avec des membres du gouvernement, des ministres, etc. Ce sont là les factions druzes qui ont refusé cette entrée parce qu'ils ne voulaient pas que les forces gouvernementales rentrent dans Soueïda. Par ailleurs, il y a aussi, disons qu'il y a une sorte de... entre les ONG qui essayent de rentrer, une sorte de compétition et certaines méfiances également de la part du gouvernement. Donc tout le monde ne peut pas rentrer. Aujourd'hui, il y a le Croissant Rouge qui est capable de rentrer et de ramener de l'aide humanitaire.
Un climat de méfiance généralisée, c'est ce que vous décrivez dans la plupart de vos reportages. Il faut rappeler donc que mi-juillet, de violents affrontements ont éclaté à Soueïda. 1400 morts, je le disais. Pas uniquement des combattants et des hommes armés. Il y a eu des massacres de civils, des femmes, des enfants. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quel a été l'élément déclencheur de ces violences?
Alors, l'élément déclencheur au mois de juillet, c'est un marchand de légumes, druze, qui a été enlevé par des bédouins armés. Et donc, suite à cet enlèvement, il y a eu un nouvel épisode de violence qui a éclaté et qui a pris une ampleur, on peut dire, sur ces derniers mois, même ces dernières années, sans précédent. C'est important, en revanche, de rappeler que ces tensions entre la communauté druze et les clans bédouins sont pas nouvelles. Il y avait déjà eu un épisode, alors c'est pas lié à Soueïda, c'était pas directement avec les bédouins, mais un épisode de violence avec la communauté druze dans les villes à majorité druze en périphérie de Damas, mois d'avril-mai. Mais c'est, voilà, ces violences, elles datent d'avant, ça fait des années. Il y a plusieurs facteurs à ça. Il y a des questions de conflits fonciers. Un habitant bédouin de Souaïda qui a été déplacé me racontait par exemple que depuis les années 2000, il a des tensions avec ses voisins de ruse parce qu'il y avait une loi de zonage qui faisait qu'il a dû être déplacé. Il ne pouvait plus faire paître ses moutons là où il habitait. Donc beaucoup de populations bédouines ont été déplacées à l'extérieur de Souaïda. C'est ce qu'il me racontait en tout cas. Il y a également des tensions qui datent comme beaucoup. Hein, on voit les tensions intercommunautaires aujourd'hui en Syrie. C'est les réminiscences de la dictature, des crimes qui ont été commis par le régime de Bachar al-Assad. Il faut savoir que Souaïda et la communauté druze avaient passé une sorte d'accord tacite avec le régime de Bachar al-Assad pour garder une sorte d'autonomie dans la ville, une autonomie militaire, notamment garder les armes, contre quoi ils s'engageaient à ne pas prendre part à la révolution. Donc il y a une...
Mais justement, sur ce point-là, est-ce que d'une certaine manière, la communauté druze dans son ensemble est en train aujourd'hui de payer ce choix politique qui a été fait par certains de leurs chefs, pas tous, durant la guerre civile ?
Oui, bien sûr. Et même au sein de la communauté druze aujourd'hui, alors ça l'est peut-être de moins en moins, mais depuis la chute du régime, c'est très divisé. La communauté druze, il y a différents, ce qu'on appelle des chers, donc les chefs religieux qui n'ont pas tous la même ligne face à Damas depuis la chute du régime. Il y en a qui étaient pour une collaboration avec les forces de Damas. D'autres, notamment un cher dont on parle beaucoup en ce moment, qui s'appelle Ali Jri, qui lui est vraiment très méfiant face aux nouvelles autorités, qui appelle à la protection internationale. Ce qui veut dire à la protection d'Israël, on en parlera peut-être. Disons que c'est aujourd'hui ce cher qu'on entend le plus, parce que notamment suite à l'épisode de violence de juillet qui a été très important face aux civils qui ont été tués, aux très violentes exactions, une partie de la population qui était pour une collaboration avec Damas, qui avait plutôt confiance, même s'il y avait une certaine méfiance, aujourd'hui c'est vraiment, on peut dire, figé dans une peur qui font qu'ils ne veulent absolument plus de collaboration avec Damas. Donc, ouais, c'est le...
Ce cher Al-Hijri et ses factions, les Bédouins que vous avez rencontrés dans les environs de Souaïda et donc qui ont fui la ville, qui ont été déplacés, qui ont fui aussi des massacres, ils vous en parlent, ils en ont peur. Et à Izra, à 40 km du nord de Souaïda, vous avez rencontré des familles décimées en partie, comme cette jeune femme, Ritam, 18 ans, qui a perdu toute sa famille, sauf son père qui a été elle-même blessée. De quoi vous témoigne-t-il de ce qui s'est passé en juillet ? Quelles paroles avez-vous recueillies chez cette jeune femme, par exemple ?
Oui, alors cette jeune femme, et c'est le témoignage de beaucoup des familles déplacées qui se trouvaient dans cette école. C'est à peu près 80 familles dans des conditions assez précaires, dormir à même le sol sur des matelas, avec l'aide humanitaire qui arrive là aussi, plus facilement qu'à Souaïda, mais au compte-gouttes. C'est des discours assez de violence assez étayée. Ce qu'ils racontent, c'est la stupeur d'abord, parce que c'est vrai que beaucoup disent... Voilà, il y a des tensions qui étaient préexistantes, notamment avec les factions armées, mais pas forcément avec leurs voisins druzes. C'est-à-dire que il y avait quand même une entente, même une très bonne entente. D'ailleurs, cette jeune femme, Kitam, elle, donc toute sa famille, effectivement, il y a eu 6 morts dans sa famille. Ils se sont fait tuer par une faction armée druze qui est arrivée là. Elle s'est cachée. Si on peut dire, jouer la morte, enfin, elle ne bougeait plus. Et c'est des voisins druzes qui l'ont sauvée, qui sont venus la récupérer et qui l'ont ensuite amenée à l'abri, elle et son père. Donc, ces violences existent, certes, mais il y a toujours une entente entre les druzes et les bédouins. Tout le monde ne veut pas la guerre. On va dire que c'est plus un conflit de groupes armés aujourd'hui dans lequel la population est prise en étau. Maintenant, ce qu'ils disent, c'est que Souaïda a quand même été grandement vidé de sa population bédouine. Beaucoup ont été déplacés. On parle de 170 000 déplacés, en grande majorité des bédouins. Ils aimeraient retourner, mais ils ont peur. Ils ont l'impression qu'il y a un cap qui a été passé, que le retour en arrière est très compliqué. Certains disent, moi, je préfère ne jamais y retourner. Puis c'est des familles qui, quand même, possédaient beaucoup de terres, des fermes, donc des familles d'agriculteurs. Ils préfèrent vendre aujourd'hui leurs terres, leurs moutons, etc. Et puis s'installer dans la province à côté de Dera, plutôt que d'y retourner. Il y a quand même une peur, oui, qui s'est installée.
Cette question du retour, effectivement, on voit comment elle affecte les personnes que vous avez rencontrées. Par exemple, cette femme, Mouna, 60 ans, qui a perdu ses champs, ses tracteurs, qui vous raconte sa grande maison qu'elle possédait à Soueida et qui n'envisage pas actuellement de retourner.
Oui, voilà, tout à fait. C'est elle notamment qui me disait, aujourd'hui, moi, je préfère m'organiser pour vendre tout ça, même si ça fait des générations que j'habite à Soueida, je préfère m'organiser une nouvelle vie ici.
Quelle est la responsabilité du gouvernement de Al-Shara dans les violences à Soueida? Comment ont-ils agi? Comment ont-ils réagi au moment du déclenchement des violences de juillet suite à l'enlèvement du marchand de Ruz?
Alors, il y a un rapport d'Amnesty International qui est sorti il y a quelques jours qui montre qu'il y a effectivement une responsabilité d'hommes liés au nouveau pouvoir dans les exactions, dans les meurtres extrajudiciaires. On parle notamment de 46 personnes de confession druze qui ont été tuées par les forces liées au nouveau gouvernement. Les forces gouvernementales ont été envoyées à Soueida suite à cet épisode de violence pour apaiser la situation. C'est ce que disait le gouvernement. Le problème, et c'est comme on a pu le voir à d'autres épisodes de violence à Jaramana, sur la côte, c'est que Al-Shara aujourd'hui a du mal à contrôler ces hommes, à contrôler notamment des factions qui sont des plus radicales, islamistes. Et donc, il n'a pas la main sur ces gens-là. Et comme on le disait, il y a beaucoup de... Il y a un besoin de justice, de vengeance des crimes liés à l'ancien régime. Et donc, en fait, c'est un engrenage. Donc, dire aujourd'hui que le gouvernement d'Achara voulait que cela arrive, c'est trop. On ne peut pas dire ça aujourd'hui.
En revanche, on n'en a pas la preuve. En tout cas, ce sont des accusations qui sont portées par les Druzes. Certains Druzes qui disent que ce ne sont pas que des éléments incontrôlés. Nous ne croyons pas à ce discours-là, mais une volonté du gouvernement de punir les Druzes. Ça, on n'en a pas la preuve.
On n'en a pas la preuve, mais effectivement, ce sont des accusations qui sont aujourd'hui dites par les Druzes. Et donc, il faudra que des enquêtes plus approfondies soient menées, tout à fait.
Il y a un autre élément qui nous permet de comprendre ce qui se joue dans le sud de la Syrie aujourd'hui, c'est que lors des affrontements, Israël est intervenu militairement en prenant la défense des Druzes et en menaçant le gouvernement Al-Shara. Quels sont aujourd'hui les liens entre l'État israélien et la minorité druze de Syrie?
Oui, alors, pour remettre rapidement en contexte, c'est vrai que depuis la chute du régime, les forces israéliennes interviennent assez régulièrement en Syrie, notamment en bombardant tout ce qui est infrastructure, arsenal militaire, parce qu'ils ne veulent pas assez clairement qu'il y ait un État avec une armée forte qui se construise à ses côtés, à ses frontières. Durant le conflit, donc il faut savoir aussi qu'il y a la communauté druze est présente en Israël, notamment assez présente au sein de l'armée. Ils sont vus comme étant plutôt des soutiens du Likoud. Il y a par ailleurs à Soueida ce fameux cher dont on parlait, Ali Jri, qui appelle depuis des mois à la protection d'Israël. Donc c'était pour Israël une raison, à nouveau, de pouvoir intervenir, de prendre la protection. Aujourd'hui, les Druzes, face à la situation, à la difficulté de la situation, voit Israël comme une porte de sortie, une vraie aide militaire. Donc, effectivement, les Israéliens...
Vous dites qu'on peut apercevoir des drapeaux israéliens dans certains rassemblements ou villages druzes. Comment est-ce que cela est perçu par les autres habitants en Syrie? Est-ce que ça alimente des sentiments de suspicion, d'hostilité?
Oui, bien sûr. Ça alimente vraiment un sentiment d'hostilité. Les autres communautés, les autres Syriens ne comprennent pas, puisque c'est vrai que Israël est vu comme un état ennemi depuis des décennies par les Syriens. Donc ils sont même aujourd'hui vus comme des traîtres, et ça peut se voir. Alors c'est le cas à Soueida, effectivement, il y a de plus en plus de drapeaux israéliens dans les manifestations, même si toute la population ne soutient pas cette intervention israélienne, il faut quand même le rappeler. Mais ça a eu notamment des conséquences dans d'autres régions, notamment près du plateau du Golan, où il y a aussi des communautés druzes qui habitent, qui cohabitent avec des communautés bédouines et sunnites, et qui ne sont pas liées directement à ce qui s'est passé à Soueida. En revanche, depuis les événements de juillet, ces communautés druzes il y a une méfiance à nouveau qui s'est créée là, et les communautés sunnites et bédouines n'ont pas de difficulté à dire que ce sont maintenant aussi des espions d'Israël qui sont envoyés ou des espions d'Algérie. Et donc, effectivement, ça crée une méfiance, et le résultat, c'est que ça risque de, à nouveau de se radicalise encore plus.
Sur le plateau du Golan, vous vous êtes rendu, vous le rappeliez, juste au lendemain de la chute de Bachar al-Assad, l'armée israélienne a fait des incursions et s'est emparée d'une partie du territoire du Golan, et depuis mène des incursions régulières dans les provinces de Dera et de Kouneïda. Comment cela est-il vécu par les habitants? Quelles en sont les conséquences très concrètes sur les villages?
Oui, donc effectivement, depuis décembre, il y a des incursions qui sont fréquentes. Ça s'est multiplié, de ce qu'on peut lire et entendre depuis notamment, enfin ces derniers mois et avec juillet, enfin avec l'épisode de juillet. C'est très mal vécu, évidemment. Les habitants ont peur. Les forces israéliennes rentrent petit à petit, prennent possession de champs, de terres. Il y a 9 positions militaires qui ont été nouvellement installées dans cette zone tampon qui est censée être démilitarisée.
Et qui n'est pas totalement désertique. Vous parlez de maisons qui ont été détruites au bulldozer.
Oui. Tout à fait, oui. À midi, une quinzaine de maisons en juin qui ont été détruites. C'est un climat de peur à nouveau qui s'installe. Ça a un réel impact. Il faut savoir que Dera, qui est donc la province près du plateau du Golan, c'est l'une des provinces les plus agricultrices, les plus productrices de Syrie. Donc, c'est un réel impact sur les agriculteurs qui, pour certains, n'ont plus accès à leurs terres parce que les positions israéliennes, enfin les forces israéliennes se sont positionnées sur les collines alentours. Intimide. Il y a eu des épisodes, il y a eu des bombardements, il y a eu des tirs, notamment dans la vallée de Kohaya, où je me suis rendue également. Alors c'était déjà au mois de mars. Il y a eu des tirs, des bombardements. Il y a eu, il me semble, 6 morts et puis de nombreux blessés. J'ai rencontré cette femme, par exemple, qui a eu le pied amputé suite à cette incursion. Donc là, c'était plusieurs mois après, parce que je l'ai vue au mois d'août. Aujourd'hui, elle travaille dans les champs, elle ne peut plus y aller. Elle a perdu. Elle ne peut plus travailler. Et c'est le cas de beaucoup d'agriculteurs qui s'inquiètent et dans cette zone.
Et qui s'inquiètent de l'accès à l'eau en particulier. Vous décrivez les prises de barrages stratégiques dans cette région agricole qui en plus est touchée par une sécheresse exceptionnelle cet été 2025 et qui continue, un manque de précipitations qui affecte les agriculteurs. Mais disent-ils, nous n'avons plus accès à certains barrages à cause des incursions de l'armée israélienne.
Oui, alors c'est des témoignages recueillis sur le terrain. C'est très difficile d'avoir exactement de cartographier quels points ont été pris par les forces israéliennes. Mais il se trouverait quand même qu'ils ont pris des sources importantes au niveau du mont Hermon, qui sont des sources qui alimentent ensuite des barrages, qui alimentent ensuite les terres agricoles. Donc effectivement, ça c'est un des facteurs qui fait que ça aggrave la sécheresse dans la région.
Pardon, l'armée, elle se justifie en expliquant qu'elle recherche des combattants du Hezbollah ou du Hamas qui pourraient se trouver sur le plateau du Golan et qu'elle cherche à désarmer. Merci beaucoup Manon Chapelain. Vos reportages en Syrie sont à écouter sur les sites de RFI et de Radio France. On fera un lien, des liens sur la page de Culture Monde. Merci beaucoup d'être venu dans le Retour de Terrain.
Merci.
بمثل اني عندي
La chanteuse syrienne Asala Nasri, née à Damas en 1969, installée aujourd'hui en Égypte où elle continue de se produire en concert et d'enregistrer de nouveaux albums. Suite de notre émission, aujourd'hui, direction la capitale chinoise.